a-t-il vécu au désert? Il y est parti probablement très tôt, très jeune pour nous, parce que à cette époque, on entrait jeune dans l'âge adulte. Et puis, nous savons que ses parents, Élisabeth et Zacharie, étaient très âgés à sa naissance. Il est allé probablement dès la fin de sa croissance, vers 15 ou 16 ans. Saint Luc dit dans son évangile, juste après avoir relaté le cantique de Zacharie, il mentionne simplement que l'enfant, Jean-Baptiste, grandissait, son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert, jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Et donc, la question n'est pas tant quel âge avait-il exactement, je vais vous le dire, probablement 15-16 ans. Mais combien de temps y est-il resté? Combien de temps a-t-il vécu au désert? Dans les conditions qu'on peut imaginer, vivre au désert. Probablement 20 ans, entre 15 et 20 ans. Jean-Baptiste a passé l'essentiel de sa vie au désert, vêtu d'une peau de bête, se nourrissant de petites bêtes, de sauterelles et de miel sauvage. En gardant cet ascendant, cette stature qui fait que toute la population venait vers lui. Pour le dire de façon très claire, sans jamais rien perdre de sa dignité, puisque j'ai voulu placer cet avant sous le signe de la dignité, de comprendre ce qu'est la dignité humaine. Chrétien, prends conscience de ta dignité. Vous connaissez cette phrase rapportée par Saint-Exupéry de son camarade Henri Guillaumet, l'aviateur qui avait survécu dans les Andes au crash de son avion, et qui avait dit à Saint-Exupéry, « Ce que je l'ai fait, je te le jure, aucune bête ne l'aurait fait. » Il avait survécu, là, c'était pas au désert, dans les Andes, dans l'altitude, dans la neige, des semaines, à force de volonté, qu'on l'appelle la force d'âme, la force de caractère ou la force de volonté, c'est ce qui fait notre admiration. C'est ce qui fait la grandeur de l'être humain, sa dignité. La volonté, c'est une des trois facultés supérieures de l'esprit humain, avec l'intelligence et la mémoire. Et la tradition, depuis saint Augustin, considère d'ailleurs que cette triade, cette trilogie, c'est une sorte de trinité psychologique, c'est la présence de Dieu-Trinité en nous, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Mais la volonté, c'est peut-être plus particulièrement le propre de l'âme. Si on reprend la définition que l'Église donne de l'âme, un élément spirituel doué de conscience et de volonté. Élément spirituel invisible et immortel. Et immortel, qui fait justement que nous subsistons, que l'âme subsiste après la mort, qui est justement ce qui permet l'immortalité de notre moi, du moi humain. Après la mort, nous n'aurons plus besoin de l'intelligence, puisque nous serons dans la vision, nous verrons face à face. C'est ça la mort, c'est la vision de Dieu. Après notre mort, nous n'aurons plus besoin de la mémoire, puisque tout sera dans la lumière. En revanche, ce qui sera déterminant, ce à quoi le Seigneur fera appel, ce qu'il provoquera en nous, c'est notre volonté. Que veux-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et à la différence de notre caractère, qui est une sorte de matériau brut, inné, que nous devons toujours maîtriser, éduquer, cultiver au meilleur sens du terme, la volonté, c'est justement ce qui permet d'éduquer notre caractère, de le maîtriser. C'est à force de volonté que nous maîtrisons justement toutes nos tendances pour être dignes de nous-mêmes, dignes de Dieu. D'où la place donnée par la liturgie, par l'Église en ce temps de l'Avent, à ces trois grandes figures de volonté que sont Isaïe, le prophète, Jean-Baptiste et la Vierge Marie. Trois formidables figures de volonté et de sainteté, évidemment, puisque la sainteté, c'est la volonté parfaitement unie à Dieu. Ils ont tous trois en commun cette liberté dont je vous dis souvent qu'elle est peut-être le trait principal de Jésus. C'est ce qui fait en tout cas l'authenticité de son amour. Dieu souverainement libre. cette liberté que les adversaires de Jésus étaient forcés de lui reconnaître. Ils disaient, maître, tu ne te laisses influencer par personne. Tu ne juges pas selon les apparences. La condition de notre liberté, c'est notre volonté. Et c'est pourquoi, dans la mission d'éducation des enfants, cette mission des parents, l'éducation de la volonté est si importante. Bien sûr, le développement, l'épanouissement de leur intelligence, l'exercice de leur mémoire, particulièrement aujourd'hui. Mais l'éducation de la volonté. Parce que ce que nous constatons malheureusement par défaut, typiquement aujourd'hui, dans tous les phénomènes d'addiction, c'est une perte de la volonté. Et on ne peut pas reprocher à la personne de ne pas retrouver sa liberté, parce qu'elle a perdu sa volonté. Elle est dans un esclavage, un emprisonnement. Et qu'est-ce qu'elle perd au bout du compte ? Sa dignité. Jean-Baptiste, précurseur de Jésus, ne se laissait pas influencer. Il était aussi peu soucieux d'aller dans le monde que de garder les foules auprès de lui. Le deuxième signe de la volonté, c'est le courage. Et il en a fallu au prophète Isaïe pour endurer le supplice qu'il a subi. Peut-être un des plus effroyables de l'histoire, il l'avait d'ailleurs lui-même prédit. Il est raconté dans un très ancien récit qu'on appelle l'Ascension d'Isaïe, composé de deux parties, le récit de son martyre et ensuite de son enlèvement au ciel. Ne rentrons pas dans les détails, c'est atroce, il a été scié sur une planche à bois sans jamais renoncer à sa foi. En revanche, la prochaine fois que vous irez visiter la Sainte-Chapelle, vous chercherez à le retrouver. Très beau vitrail de la Sainte-Chapelle, le martyr d'Isaïe. Courage de Jean-Baptiste dans sa prison. Courage de Marie au pied de la croix. Mais courage de tant de personnes qui nous entourent. Je pense en particulier à toutes celles que j'accompagne dans leurs dernières semaines, que j'ai accompagnées, qui restent malgré la maladie, malgré l'angoisse, forte, digne, courageuse. Je vous ai raconté au début du mois d'août la mort de cet ami d'enfance qui a été d'un courage que seul l'amour peut donner. Seul l'amour peut donner un tel courage, une telle dignité. Et je demande au Seigneur régulièrement la grâce d'être aussi digne que lui, aussi digne, aussi fort que toutes ces personnes que j'accompagne, lorsque viendra le moment pour moi de quitter ce monde. Le troisième signe de la volonté, il y a la liberté, il y a le courage, et le troisième signe de la volonté la plus accomplie, c'est la générosité. Tel que l'Évangile l'a décrit, c'est-à-dire qu'il donne sans attendre en retour, pas par calcul, d'un cœur pur. Que veut en effet la volonté ? Elle veut le bien. C'est la clé de l'anthropologie chrétienne qui doit tant à saint Thomas d'Aquin qui a montré que la volonté ne peut se porter que sur un bien. La volonté ne peut pas vouloir un mal. La volonté ne peut se porter que sur un bien, même si ce bien n'est pas réel. C'est une distinction classique entre le bien réel et le bien apparent. C'est le rôle de l'intelligence, justement, de montrer la réalité du bien. Mais la volonté ne peut vouloir et ne veut que le bien, c'est-à-dire, en fin de compte, Dieu lui-même. Et si ce Dieu est notre Dieu, c'est-à-dire s'il est notre Père, elle veut le bien de tous. On appelle le bien commun, et cette volonté du bien de tous, c'est ce qui conduit à la sainteté. Nous venons de le célébrer dans la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. On s'attache toujours à sa réalité biologique, sa virginité. Mais qu'est-ce qui en elle, au plus profond, a été préservé du péché originel ? Sa volonté humaine. La Vierge Marie, la volonté parfaite. La volonté parfaite totalement unie à Dieu. La générosité, elle ne se contente pas de donner. La générosité, elle ouvre. Elle ouvre le cœur, elle ouvre l'esprit, elle ouvre des horizons nouveaux. C'est exactement comme l'amour qui ouvre toujours sur un monde nouveau. C'est, C'est ça la grandeur, l'émerveillement de l'amour. C'est la découverte d'un monde nouveau. Et c'est le sens de l'appel d'Isaïe, repris par Jean-Baptiste, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine, les sommets en large vallée, d'une certaine façon que tout soit aplani. Pourquoi ? Pour voir plus loin, pour voir plus grand, pour voir l'horizon, pour voir ce qui est encore caché à nos yeux, ce que le Christ lui-même est venu révéler, la grandeur de l'amour divin. La liberté, le courage, la générosité, trois autres noms de notre dignité.